Il est 9h06, vous écoutez France Inter et puis je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez. La grande matinale, le mag, nous avons une heure devant nous et ça tombe bien. Charline Vanhoenacker nous rejoindra avec son cortège de pluie et de crue, les pieds dans l'eau, quoi. Et puis Daphné Burki nous présentera un jeune créateur de mode. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Les batailles politiques, figurez-vous, se mènent aussi à travers les livres. Question sur les libraires ce matin, le fameux choix des libraires. Les librairies sont-elles des lieux de pluralisme ou penchent-elles trop à gauche, comme leur reprochent certains éditeurs? Nous en discuterons tout à l'heure. Mais tout de suite, du goût, de la saveur, dans le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Valentin Raffali écoute de la musique fort, très fort. Il s'est fait des tatouages. Il dévale les skateparks sur une planche à roulettes depuis qu'il est tout minot. Il a frôlé la mort, il a connu les hôpitaux, il a beaucoup bougé, beaucoup flippé. Et finalement, il s'est réfugié dans la cuisine d'un resto. Il s'y sent bien, il s'y sent protégé. À 24 ans, il ouvre son bistrot, le Living Stone, à Marseille. Une petite grotte avec des graffitis, une taverne qui sert des plats d'un tel niveau que c'est la déflagration à Marseille. Alors attention, Monsieur Raffali a été depuis invité dans plein d'endroits très chics. Et maintenant qu'il a 30 ans, il s'installe à Paris, dans une boîte de nuit où moi j'allais danser quand lui, il était petit. Portrait numéro 91. Bonjour Monsieur Valentin Raffali.
Bonjour Sonia.
Approchez-vous du micro, soyez pas timide.
Merci.
Voilà, vous allez prendre la tête du bus Palladium. Alors, boîte de nuit mythique, on va en reparler, où j'allais danser quand vous étiez petit. Boîte de nuit mythique qui devient un hôtel 5 étoiles. On va le raconter parce que vous allez créer plusieurs cartes, y compris un petit déjeuner, du coup, puisque les gens avalent quelque chose le matin. Mais d'abord, quand on est chef à Marseille, la journée, elle commence par faire ses sardines. Et moi, je voudrais savoir en quoi ça consiste, faire ses sardines.
L'exercice de faire nos sardines, déjà il y a quelque chose de culturel hein, chez nous autour de la sardine ou des anchois. Il y a plusieurs raisons de pourquoi est-ce que je l'ai fait. C'est que moi j'avais un besoin d'économie. D'abord, on est sur un produit qui est ultra accessible. Et toute l'idée en fait de cette cuisine chez Livingston, c'était de faire quelque chose de très humble, quelque chose de très beau et en grande quantité en fait, parce qu'on faisait beaucoup de monde, tu vois.
Donc ça fait beaucoup de sardines. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces sardines?
Ce que je fais en fait, c'est l'exercice de les lever le mieux possible, donc parfaitement si c'est le cas. Et après c'est une opération.
Donc on l'ouvre, on enlève l'arête.
Exactement, alors ça part de notre couteau d'abord, donc tu fais en sorte que ton couteau coupe très bien et on va l'ouvrir en portefeuille. En fait l'idée c'est de pouvoir retirer l'arête, mais de garder tout le corps de la sardine, on détache juste la tête, on la met au sel, au sucre, un petit peu de vinaigre, on rince et après on les garde dans l'huile d'olive. Et dans l'idéal, c'est une huile d'olive des Baux-de-Provence ou un truc très bon, quoi.
Oui, donc en fait, il y a un peu toute la Méditerranée qui se joue là tous les matins.
Complètement. En fait, la valeur ajoutée qu'on a à ce produit, qui est très humble, en fait, c'est toute la technique qu'on lui apporte, toute la délicatesse.
Et vous qui avez déjà tant voyagé, Valentin Raffali, à Paris, elle va vous manquer, cette Méditerranée?
Pour être sincère, oui, hein, parce que je suis arrivé il y a 3 mois maintenant à Paris. Et ce qui peut me manquer, en tout cas, de la Méditerranée, c'est juste la chance de pouvoir y aller, de pouvoir démarrer ma journée face à la mer ou de la terminer comme je le faisais quand j'étais chez Livingston, quoi. Maintenant, j'y suis né, donc j'ai mes amis, j'ai ma famille, donc je peux toujours y retourner, quoi. Et maintenant, tout l'exercice, c'est de... Tu sais, c'est un nouveau chemin que je sois à Paris, c'est un nouveau voyage pour moi et j'aime tellement la mer que maintenant, on est plus au niveau de la Bretagne, quoi. Donc je suis... Non, mais du coup, je suis ultra curieux. Et
on
à savoir que...
Au niveau de la Bretagne,
la plus belle lumière que j'ai vue en France... Elle est en Bretagne, je trouve. Donc je suis ultra content de la découvrir. Et pour moi, c'est un très bel exercice parce que là, je suis dans une zone où j'écris mes menus pour le bus Palladium, du coup. Et il y a des poissons que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc pour moi, c'est un nouveau terrain, tu vois. Mais la Méditerranée, si tu la connais, elle te manquera forcément.
Il n'y a pas de parole à ce qu'on va entendre. C'est un film américain de 1973 dont vous étiez pas né.
Okay.
Moi non plus. Et c'est un film qui raconte l'histoire de Jonathan Livingston, le goéland. Vous l'avez vu ce film?
Oui, je l'ai vu, mais en fait je l'ai...
Moi quand j'étais petite au cinéma.
Okay, wow. En fait c'est un cadeau de mon grand-père.
Le livre?
Ouais. le livre. Et en fait, j'ai grandi un peu derrière l'éducation de ce livre. Je me suis même tatoué sur le ventre.
Mais avant que vous avez un goéland sur le ventre ?
Non, mais j'ai écrit Livingstone sur mon ventre.
Ah ouais. Ah, il y a un oiseau en dessous.
Ouais,
quand même,
il y a un oiseau en dessous.
Il vient de me montrer son ventre.
J'ai tatoué avant d'avoir le restaurant. Et en fait, tout le message, c'est un message de résilience. En fait, l'idée, c'est d'accepter son individualité, de l'assumer, de prendre.
Oui, mais il faut
ailes.
Raconter qui est ce goéland, Jonathan Livingstone. Moi aussi, c'était mon livre de chevet quand j'étais petite.
Oh wow.
Ouais, vraiment.
Alors de ce que moi j'ai compris de ma traduction de Livingstone, de Jonathan, c'est que dans un groupe de goélands, il y en a un qui est différent et qui décide de voler parce qu'il aime ça, non pas parce qu'il veut uniquement se nourrir. Mm. Et en fait, il y a toute une introspection autour du fait de ne pas être compris, de déranger. On fait la même chose que tout le monde dans ce groupe-là, mais on le voit légèrement différemment. Donc Jonathan, c'est comme s'il avait été exclu par sa différence. Et lui, il décide en fait d'assumer son individualité en partant.
C'est l'histoire d'un goéland qui veut voler toujours plus haut, toujours
exactement.
Plus vite, toujours plus fort,
mais ce qu'il
veut perfectionner sa technique.
Exactement, mais ce qu'il y a de beau, c'est que sa technique, elle se perfectionne avec les rencontres qu'il fait sur le chemin. Et ma relation au voyage, finalement, elle est un peu pareille, parce que j'ai des amis qui sont exceptionnels. Et dans mon métier, en tout cas en cuisine, mes inspirations, elles viennent surtout d'eux. J'ai un ami qui c'est incroyable à Montréal, par exemple, tu vois. Sydney, à Londres. Et du coup, l'histoire de Jonathan, finalement, je vis à travers ça, tu vois.
Et dans le Livingstone, donc ce tout petit restaurant qui est le vôtre et qui est en travaux en ce moment, qui va rouvrir à la fin de la semaine, voilà, avec un chef invité, un chef en résidence, pendant que vous cuisinerez à Paris, où il y a eu juste avant les travaux un immense goéland. Il restera là, le goéland, il sera toujours là.
Oui,
il sera toujours là.
Il est toujours là, il bouge pas.
Vous avez une toute petite cuisine dans ce restaurant.
Ouais.
Moi, ça m'a frappé, cette toute petite cuisine. Mm-hmm. Parce que Guy Savoy est venu à ce micro, Valentin Raffali, l'immense Guy Savoy, trois étoiles Michelin, etc. Enfin, et lui, il a raconté qu'il a appris à cuisiner dans la buvette de sa maman, qui tenait une buvette dans un jardin public.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'une toute petite cuisine, quand on fait de la cuisine de si haut niveau ?
Alors, de si haut niveau, je ne sais pas, mais en tout cas, le niveau qu'on s'impose, c'est de faire au mieux avec ce qu'on a. Mm. Et je conseille à tous les jeunes cuisiniers de démarrer petit, parce que toute l'intelligence d'une cuisine, c'est d'écrire ses menus uniquement basés sur ce qu'on a de disponible autour de nous. Donc, en fait, l'intelligence d'un menu qui est correctement écrit, c'est d'avoir conscience de ce qui nous entoure. Si l'espace est petit, alors on est sur une réflexion qui est compacte, sur une cuisine qui est tranchante, sur une cuisine qui n'a que 3 à 4 éléments, uniquement parce qu'on n'a pas le stockage et parce qu'il faut que ça sorte vite.
Ouais.
C'est une cuisine où on apprend à se déplacer, parce qu'on est 4 ou 5 dedans. Donc le déplacement, le rapport au corps, il est ultra important. Et je conseille de démarrer sur un petit format, une petite cuisine, parce qu'on apprend tous les basiques qui font de nous un cuisinier qui est plus accompli plus tard. C'est pas qu'une question de choisir des bons produits ou d'être créatif. Il y a des besoins techniques qu'on ne voit pas quand on ne fait pas de cuisine, qui sont le rapport au déplacement et la compréhension de notre espace.
Et vous voici arrivé à Paris, Valentin Raffali, dans une grande cuisine au Bus Palladium. Paris-Marseille en foot, ça s'appelle un classico.
Ouais, gros
et
classico.
Et la semaine dernière...
Ah oui, je sais, oui, c'est je sais, je suis au courant. Oui.
Allez, ça...
C'est un jour très important pour nos supporters, je pense qu'on a... marquer encore l'histoire parce que jamais on avait gagné 5-0 à Marseille et dans un classique et nos supporters et ils méritent. Et arrive le meilleur moment de la saison et ce résultat c'est important, je me répète, en termes de confiance. Je suis très content à Paris. Ici c'est Paris.
Ici c'est Paris. Et lui c'est Luis Enrique.
Ouais.
C'est le PSG qui a écrasé l'OM.
Ouais.
La semaine dernière, vous étiez où ? Vous étiez au parc ?
Non, jamais de la vie.
Jamais de la vie.
En plus, on l'a proposé. Moi, je reste quand même fidèle. Fidèle à mes racines.
C'est ça, on a parlé d'un naufrage, on a parlé d'un désastre, on a parlé d'une humiliation de Marseille à Paris. Donc quand on est Marseillais et qu'on s'installe à Paris, qu'est-ce qu'on fait ? On change de camp ? On s'achète un maillot du PSG ? Non !
Ah ouais, mais moi j'ai mon camp, c'est-à-dire qu'en fait, moi je change pas de camp, moi. Moi j'ai le mien, mais le mien il va même au-delà de Marseille. C'est-à-dire que oui, je me présente en tant que Marseillais, mais j'ai tellement bougé que finalement, tu sais, je suis associé à rien d'autre que ce que j'aime.
En revanche, quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes entré dans le Louvre.
Ouais.
Et le Louvre, ça a été un choc.
Ouais. Mais en fait, j'ai été accueilli même par le Louvre parce que je suis arrivé à Paris, j'ai pas... Enfin, tu sais, c'est la vie normale, tu cherches un appart. Le seul lieu que j'avais, c'était le Louvre. Donc en fait, on a été mis en contact de façon ultra organique, mais le seul lieu où je pouvais circuler simplement, c'était là-bas.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est...
C'est cool que tu me poses la question parce que donc il y a plusieurs ressentis, mais que d'être seul dedans déjà c'est une chance incroyable. Jamais je me serais imaginé ça de ma vie. Mais il y a un sentiment d'apesanteur. Il y a les sons qui font que tu sens tous tes pas. sur le parquet qui peut grincer parfois. Et, et moi, pour être très sincère, j'avais un sentiment qui était presque désagréable. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça dingue que de... Tu sais, en fait, j'avais idée de ce que je voulais aller voir, genre des tableaux d'Ary Scheffer ou des choses comme ça, mais il y a un chemin à parcourir et je trouvais ça dingue que de marcher à travers l'histoire et en fait de ne même pas regarder certains tableaux qui ont potentiellement bouleversé le temps, tu vois. C'est incroyable, c'est un moment...
Parce que là, vous entamez une collaboration avec le Louvre, et donc vous cuisinez en fonction des tableaux.
Exactement.
Vous publiez des vidéos qui sont hyper vues, hyper partagées, et vous vous retrouvez en face d'un tableau qui représente les enfers par John Martin. Et puis vous inventez des coquilles Saint-Jacques, avec des champignons, avec une sauce magnifique d'ailleurs. Où est-ce que vous avez appris à faire des sauces magnifiques comme ça?
Les sauces, en tout cas, c'est par mimétisme surtout, et j'ai appris avec un chef maire ouvrier de France qui s'appelle Serge Chenet. Et finalement, après, je les ai appris sur toute ma carrière, parce que j'ai appris des bases avec lui, qui est maire ouvrier de France. Mais après, j'ai ouvert le restaurant très tôt, Livingstone, donc il y a un rapport à être autodidacte aussi. Manger dehors, et à se poser des questions sur les bonnes techniques. Et finalement, il y a un répertoire de sauces qui existe, mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Il y a beaucoup de variations, mais les techniques qu'on aime, finalement, il y en a une dizaine, quoi. Donc, moi, je cherchais un sentiment qui était un peu gratiné, quelque chose de feu, un petit peu. Et je sais que les sabayons réagissent très bien à ça, posés sous une résistance de four à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai eu
le sabayon de l'enfer.
Ouais, le sabayon de l'enfer, exactement.
Le bus palladium. Ouais. Le bus palladium, il a ouvert dans les années 60.
Ouais.
Rue Fontaine, à Pigalle.
Tout est mis, on entend un vacarme formidable. Je crois que ça vient du palladium, là. J'ai jamais été au palladium, je ne sais pas comment qu'on y danse.
Ceux qui sont ici se jouent un peu la comédie?
Non, ils ne jouent pas la comédie, ils ont un idéal, ils ont des problèmes. Ce sont pour la plupart des garçons issus de familles pauvres et leur paye, il fallait la donner à leurs parents. Alors ils en ont eu marre un jour, ils ont voulu voir la rue, voir la liberté.
C'est une discothèque mythique. Le bus Palladium, où il y a eu des concerts de Johnny Hallyday, des Beatles, la reformation de Téléphone, il y a eu Gloria Gaynor, il y a eu tout le monde, ça devient un hôtel très chic. Vous allez donc concevoir la carte du bar, celle du restaurant, du petit déjeuner. C'est un lieu empli de musique, donc, comme vous.
Merci.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Vous êtes empli de sons.
Je le suis, Et je t'avoue que le projet, il est grand quand même, c'est la première fois que je suis chef d'un hôtel.
C'est ça.
Donc en fait, j'ai le besoin de cadre là, tu vois. Donc la partie musicale, je l'admire, et en fait j'admire l'histoire qu'il y a eu derrière, bien que je ne l'ai pas connue. Mais là, je suis tellement dans le concret, tu vois, même hier soir, j'étais encore là avec une partie de mon équipe à ranger tout le matériel et tout, que j'essaye de rester là où j'essaye de rester à ma place, qui est en cuisine, tu vois. Et je fais très attention justement à ne pas en sortir. Déjà parce que je suis une nature ultra concentrée, donc je suis en cuisine. Mais
il y a quand même quelque chose chez vous qui vise à maîtriser l'angoisse, à pas se laisser déborder par l'angoisse.
Même aujourd'hui.
Pourquoi ?
Même aujourd'hui. Ça, c'est arrivé après Top Chef. Justement, le sentiment d'angoisse, je l'ai jamais connu avant ça. Mais ça, je pense que c'est la médiatisation et c'est. Je pense que le sentiment d'angoisse,
il est vite. De se retrouver médiatisé très vite.
Complètement, et c'est dans une vie en fait où j'ai toujours été très spontané, je le suis toujours, mais je me suis jamais posé la question de j'ai jamais anticipé ce que j'allais dire et je ne sais pas parler autrement qu'avec mon cœur, tu vois. Et mais du coup parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, et du coup le sentiment d'angoisse je l'ai, mais il est omniprésent mais il est très contrôlé maintenant, et du coup il y a un gros travail d'introspection et qui me sert en cuisine, et du coup il faut rester. Tu sais, il faut canaliser son énergie au bon endroit.
Et alors, c'est quand même l'histoire d'un garçon qui a vécu quelque chose d'absolument fou. Parce que vous avez été frappé par un cancer quand vous étiez tout petit. Vraiment tout petit.
Le rétinoblastome.
C'est-à-dire un cancer de l'œil.
Oui, exactement. Alors, c'est pas vraiment un cancer de l'œil, en fait. C'est un cancer qui va toucher nos sens. Et donc, moi, la métastase a été située au niveau de ma rétine. Ouais. Et c'est un cancer qui est encore plus dur que ça, parce que si mal contrôlé, alors il touche notre ouïe, il touche notre odorat. Et on peut en mourir, quoi.
Et en fait, vous avez perdu un œil.
Ouais, exactement, l'œil droit. Et donc voilà, et en fait, je pense que déjà, j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé, parce que quand on tombe malade, et c'est ce que j'explique dans le TEDx que j'ai fait l'année dernière à Marseille, c'est qu'en fait, on rentre forcément dans l'anticipation des choses, parce qu'on vit au conditionnel. Et très souvent, on va nous dire, bon ben on espère que Valentin sera capable de faire ça, de faire de la moto ou de faire du skate ou.
Et puis on attend des analyses, et puis on attend des scanners, et puis on attend des IRM, et puis on attend des résultats médicaux.
Voilà.
On est sous le temps suspendu.
Ouais, exactement. Il y a toujours quelque chose qui où on se dit bon, on espère que ça va le faire, tu vois. Ouais. Et donc on est obligé de vivre en fonction et de faire preuve de courage, parce que le courage qu'on a quand on est malade, c'est de se dire tu sais quoi, j'y vais quand même, qu'importe l'issue quoi. Et du coup, j'ai grandi autour de ça. Et si je me retrouve aujourd'hui chef du Palladium ou si j'ai Livingston, c'est pas une question de talent, c'est une question de travail et de culte, de ce courage-là, de se dire, tu sais quoi, je sais pas comment ça va terminer, mais j'y vais quand même.
Qu'importe l'issue,
voilà.
Qu'importe l'issue.
Exactement.
Ouais.
Donc c'est,
Vous avez raconté aussi sur la scène de ce TEDx, de cette conférence que vous avez donnée l'année dernière à Marseille, vous avez raconté que votre père est mort d'un cancer quand vous étiez petit, quand vous aviez 8 ans.
Ouais.
Alors que vous aviez été malade d'un cancer.
Ouais.
Ouais.
Complètement. Ben, ça a été le coup, quoi.
Ouais.
Et lui, il en est décédé.
Lui, il en est mort.
Parce que quand on est enfant et quand on est malade, on est ultra protégé par les médecins, par nos parents. Et en fait, moi, j'ai grandi avec le Petit Prince, avec une image un peu, un imaginaire invincible, un peu. Et on essaie de protéger l'enfant pour créer en lui une croyance, tu vois, un truc fort.
Et c'est celui qui t'a protégé.
Et ouais, il a fait partie des gens qui m'ont protégé. Mais le problème, c'est que quand je suis sorti de l'hôpital et que j'ai commencé à grandir, du coup, je l'ai vu décéder. Donc, je l'ai vu mourir, je l'ai vu partir. Et en fait, j'ai réalisé que l'invincibilité, finalement, elle n'existait pas. Et donc, en fait, j'ai perdu beaucoup d'insouciance à ce moment-là. Et c'est là où l'introspection a commencé dans ma vie, où je me suis dit, OK, en fait, les adultes, ils sont surtout gentils avec moi. Ils me rassurent, mais donc, j'ai compris que cette mécanique, tu vois. Mais je ne changerai rien, paradoxalement. Ouais. Parce que je ne sais pas qui j'aurais été. Je n'ai jamais manqué d'un œil de ma vie, tu vois. De mon père, oui. Mais le...
Oui, donc, parce que tu as un œil de verre.
Ouais, exactement, voilà. Je porte une prothèse. Et justement, la surmédiatisation, ça m'a aidé aussi à accepter le sujet aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, et ça c'est ce que j'ai dit à un moment à quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a deux cancers. Il y a celui qu'on vit, mais il y a le cancer où on dit l'enfer c'est les autres. En fait, c'est d'être scolarisé, d'arriver à l'école, en fait, et d'être regardé différemment. Et finalement, la singularité que j'ai en cuisine aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer, parce qu'elle n'est pas née en cuisine, mais elle est née dans la cour de l'école, en fait. Où en fait, la singularité, je l'avais parce que soit c'était des moqueries, soit c'était juste un regard, tu sais, où on se dit, oula, il y a quelque chose de bizarre. Donc cette singularité, je l'ai cultivée à travers le malheur que j'ai eu de ce complexe-là, tu vois. Et ça a fait de moi quelqu'un de singulier aujourd'hui. Donc pas étonnant que je sois quelqu'un de créatif, tu vois.
Blink, 182, c'est ça?
Ouais,
c'est
exactement. Ah ouais, ouais, ça c'est bien avec ça. Ouais, ouais.
Pourquoi on se sent si bien dans un skatepark?
Ah ouais, ça c'est une trop belle question. C'est le...
C'est la dernière.
Mais j'adore cette question. Pourquoi est-ce qu'on se sent si bien? Parce que c'est un skatepark, c'est une bande d'amis, c'est une culture. Il y a un vœu de liberté, il y a un vœu de se retrouver tous ensemble, on partage beaucoup de choses. Hein. C'est les premiers... ce qui va être interdit, on va potentiellement le faire là-bas, c'est nos temps libres à nous, on se dépense, il y a de la musique. C'est la première fois qu'on fume quand on est adolescent, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé. c'est la première... c'est un peu le sentiment d'école buissonnière, tu vois. Et là récemment j'ai pu reconnecter avec Element, du coup l'année dernière c'est une marque de skate qui m'ont accueilli lors d'un trip en Suède. Le skate, ça a changé ma vie parce que, au même titre que la cuisine, il y a un besoin d'individualité, un besoin de style. Donc, il y a beaucoup de créativité autour de ça. Il y a surtout le culte du courage parce qu'un très bon skater, c'est quelqu'un qui a essayé 10 000 fois quelque chose.
Qu'importe l'issue.
Ouais, qu'on se blesse ou pas.
Voilà,
tu vois.
L'histoire de Valentin Ravalli qui se retrouve à cuisiner pendant les Oscars à Los Angeles. Ah là, ouais, vous avez vu des grands skateurs?
Écoute, là, j'ai pas vu, non, mais ouais, des stars du cinéma
en cuisine,
et tout, tu vois. Mais, là, j'en ai pas vu, mais les plus grandes stars, parfois on les connaît pas. Tu vois, elles sont pas. Mais ouais, Oscar, là c'était pour Oppenheimer.
Voilà, cuisiner pendant le festival de Cannes.
Ouais. Mm-hmm. Damso, par exemple, tu
avec
vois, là, ça c'était l'année dernière. Et justement, c'est le. C'est, je suis riche de ça, que d'avoir accès à des créatifs comme ça, c'est incroyable.
Et
s'il
y a une question qu'on ne pose pas à Valentin Ravalli, c'est qu'est-ce qu'on va manger au mois de mars, quand le bus Palladium va ouvrir, parce qu'il ne le sait pas.
Ouais, mais juste, je sais qu'on est sur la fin, mais ça c'est important parce que je représente ma génération quand je dis ça. C'est que on est sur une génération qui est tellement fragile, on travaille sur des saisons qui sont très très courtes, et en fait ce serait problématique que de te répondre aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens qui vont me dire, alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben j'en sais rien, parce que je sais pas ce qui est encore disponible. Et ma génération, on se doit d'écrire nos menus uniquement basé sur ce qu'il y a de disponible. Donc ça, c'est du travail, c'est du temps au téléphone, c'est des échanges sur WhatsApp avec nos fournisseurs. Et la composition d'une assiette, elle se veut tributaires en fait de ce qui se passe autour de nous. Voilà.
Valentin Raffali, il a 30 ans. Voilà, voilà. Le goéland vient de déployer ses ailes. Il s'installe au Bus Palladium à Paris dans 3 semaines. Hein.
Ouais, bah là, j'y suis. Donc, passez le voir, je nettoie. Le Livingstone, on réouvre ce week-end.
Merci, Valentin.
Merci, Sonia. Trop bien.
Papa ni son grand frère sont pas des rôles que je peux jouer jusqu'au bout, pas du tout. Je lui dis, y a des gens sur terre qui chantent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Être plus sincère, j'ai parfois du mal à joindre les deux bouts, mais depuis l'année où je suis revenu de la guerre, j'ai jamais manqué à ces rendez-vous, pas du tout. Je lui dis, y a des gens sur terre qui pleurent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou.
Scheller, fier et fou de vous. On était en 1978, mais là il est 9h28 et vous êtes dans le mag de la grande matinale sur France Inter. Charline Vanhoenacker,
bonjour la France Inter.
J'allais dire à 9h45, je me disais, est-ce que c'est très intéressant de donner l'heure? Oui,
ben, quand
toujours.
Même, oui, parce que
même, c'est les gens, rendez-vous.
Des fois les gens se demandent, mais c'est vrai. Ouais. Alors on nous avait prévenu pour la montée des eaux, mais on ne se doutait pas que la France serait engloutie en 2 semaines.
C'est ça. Merci. Daphné Burki nous rejoindra dans un instant avec un jeune créateur de mode dont elle va nous faire découvrir le talent. Bon, là, il est 9h29, vous êtes toujours sur France Inter et là, c'est l'heure du débat du jour.
La lecture, c'est quand même un acte hautement intime et en même temps, une ouverture vers l'autre. On ne lit pas de l'autre amont de la même manière qu'on lit Proust et on ne lit pas Proust de la même manière qu'on lit Joyce ou qu'on lit Rabelais. Le vrai rôle, la vraie mission, c'est de faire découvrir des choses. Ce n'est pas nous les créateurs. Hein.
Le choix du libraire, est-il seulement littéraire ou est-il aussi politique? Énorme carton d'édition ces derniers mois pour les livres de Nicolas Sarkozy, par exemple de Jordan Bardella ou de Philippe de Villiers. Or, certaines librairies indépendantes choisissent de ne pas mettre en avant ces ouvrages comme on le fait généralement avec des best-sellers, alimentant un procès en parti pris idéologique. Les librairies parisiennes sont-elles toutes de gauche? C'est même inquiété Le Figaro récemment.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Alors, les librairies sont-elles un lieu de pluralisme ou penchent-elles d'un côté ou de l'autre? Penchent-elles trop à gauche? C'est la question dont on va débattre ce matin avec Clémentine Golsdal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Du Monde. Et puis Samuel Fitoussi face à vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, chroniqueur au Figaro et sur Europe 1. Et vous avez publié récemment « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» paru aux éditions de l'Observatoire. Clémentine Golsdal, je commence avec vous. Vous avez consacré l'année dernière un article à cette question du pluralisme dans les librairies. Vous aviez identifié déjà à l'époque que les librairies étaient en train de devenir le lieu d'une bataille culturelle. De quelle manière ?
C'est pas nouveau, en fait. Je l'avais observé déjà en 2016. J'étais aux États-Unis au moment de l'élection de Donald Trump, et j'avais déjà fait un article à l'époque sur les librairies, faisaient des vitrines anti-Trump et tout ça. Donc la librairie, c'est un lieu de socialisation, en fait, où les gens viennent aussi pour se retrouver dans des moments de crise politique. Et cet article que j'avais fait sur les librairies, c'était au lendemain des législatives, et c'était aussi au moment où Vincent Bolloré avait racheté le groupe Hachette. Mm-hmm. Et du coup, je m'étais dit, mais comment ces libraires...
Alors, le groupe Hachette, ça veut dire plusieurs maisons d'édition, dont la maison d'édition Fayard, qui a édité les livres de Philippe de Villiers, de Jordan Bardella et récemment Nicolas
Sarkozy.
C'est
ça, mais sauf qu'en fait, Hachette, donc c'est Fayard, il y a une sorte de vitrine de l'extrême droite qui est Fayard, mais il y a aussi Grasset, Stock, Jean-Claude Lattès, Calman Lévy. Donc en fait, je me disais comment les libraires qui sont réputés être progressistes, pour pas dire de gauche, vont gérer le fait de vendre des livres qui vont bénéficier au milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré. Il disait nous, en fait, on fait notre travail, on a nos goûts, notre librairie, c'est un peu, il disait quand même beaucoup, c'est un peu comme une extension de chez nous, notre librairie. Quand vous rentrez dans ma librairie, vous rentrez chez moi, et donc chez moi, je vous propose mon choix, et mon choix, il est subjectif comme tous les choix.
Mmh. Samuel Fitoussi, vous trouvez que c'est un problème, justement ?
Oui, c'est vrai que je pense que le constat, je suis plutôt d'accord là-dessus. J'ai l'impression que les librairies indépendantes parisiennes sont plutôt...
Parisiennes et pas que parisiennes.
Oui, c'était partout en France, moi. Ouais.
Sont plutôt, penchent plutôt à gauche font transparaître cela dans le choix des livres qu'elles exposent, qu'elles commandent, etc. Ce qui est peut-être un peu dommage pour les Français qui, eux, ne sont pas tous de gauche. Dans l'article du Figaro paru la semaine dernière, justement, sur le biais politique des libraires, la parole a été donnée notamment à Alice Boël, qui dirige Fayard.
Voilà, la patronne de Fayard.
Et qui disait que beaucoup des livres qu'elle édite, de Marion Maréchal, de Jordan Bardella, de Nicolas Sarkozy, ne sont pas pris par beaucoup de librairies indépendantes. Or, ces livres cartonnent et par conséquent, ils doivent se vendre sur Amazon parce que les Français ne les trouvent plus en librairie, ce qui est peut-être un peu dommage.
Je vous cite par exemple les propos de Muriel Beyer, donc, qui est la directrice des éditions de l'Observatoire, qui est donc votre maison d'édition. D'accord. Et qui par ailleurs a très longtemps accompagné Nicolas Sarkozy. Elle a été pendant très longtemps, Muriel Beyer, l'éditrice de Nicolas Sarkozy. Elle dit qu'il y a beaucoup de libraires très jeunes qui sont dans des visions qui n'étaient pas celles d'il y a 20 ans. Ils sont plus politisé qu'avant, plus wokisé, c'est l'expression qu'elle utilise. Et elle dit le problème, c'est qu'ils n'assument pas ce parti pris. Ils se présentent comme un lieu où on va trouver toute la littérature, et une librairie dite généraliste. Or, elle dit, on ne trouve pas toute la littérature. Elle pointe le problème.
D'accord. D'ailleurs, il y a un passage amusant dans l'article du Figaro paru la semaine dernière. La parole est donnée à un moment à un libraire, et lui, il insiste, il dit, ma librairie n'est absolument pas de gauche, c'est pas un lieu politique. Et ensuite, la journaliste le presse et il admet « Simplement, les bouquins qui encouragent à la haine ou au mépris n'ont pas leur place chez moi et il y en a plus à l'extrême droite. » Donc il admet en fait avoir un biais politique et il admet même plus tard dans l'article ne pas vouloir vendre le livre de Nicolas Sarkozy. Donc oui, en effet, il y a un biais, évidemment. Après, on peut débattre, ce biais est-il légitime ? Parce que ce que je veux dire, c'est que les librairies sont des lieux privés.
Oui, c'est ça.
C'est pas un service public, donc on peut être le droit d'afficher leurs opinions politiques et de vendre en fonction. Mais se cacher derrière une prétendue neutralité, c'est peut-être dommage.
Ouais, je crois que personne se cache, en fait, quand on dit d'abord représenter toute la littérature, la production littéraire en France est pléthorique, ce qui fait que les libraires, en fait, pour des raisons de surface, ont à faire des choix. Donc, ils font des choix. Et ensuite, les livres politiques, là, on a cité vraiment des livres d'hommes et de femmes politiques, c'est pas vraiment le matériau de la librairie indépendante. La librairie indépendante, elle vit sur du roman, et elle vit sur aussi, il y a un rayon souvent documents, essais, mais qui sont des écrits de journalistes comme le vôtre, d'ailleurs, qui, je suis sûre, étaient très bien représentés dans les librairies indépendantes.
Pour en avoir parlé avec mon éditrice hier, le mien a quand même plus de mal à être distribué dans certaines librairies indépendantes dont on sait qu'elles sont de gauche.
Après, c'est évidemment, ce qu'elle vous dit. C'est-à-dire que quand on dit un libraire s'engage, un libraire porte un auteur, vous ne vous sentez pas porté par les libraires.
pas par tous, évidemment. Beaucoup
parce de, que vous êtes une plume de droite.
Oui, par beaucoup de libraires, c'est plus compliqué.
Mais
parce
pas
que
porté
je suis
ou discriminé.
Je ne sais pas, je ne vais pas parler de mon cas individuel, mais si vous voulez, par exemple...
C'est intéressant quand même, parce que Muriel Beyer, en l'occurrence, elle est en plus, de plus en plus marquée très très à droite, votre éditrice des éditions de l'Observatoire.
Elle n'est pas marquée très très à droite.
Elle retweet Julien Odoul. Donc elle est...
Les éditions de l'Observatoire restent une maison qui édite des personnalités de toutes couleurs politiques.
Mais elle-même, elle a des prises de position très à droite. Et donc si moi je suis au courant, les libraires sont au courant. Donc du coup, c'est vrai que c'est une maison en fait qui s'est, dont l'ADN maintenant, l'image en tout cas, est de plus en plus droitière. Moi, j'ai l'impression que les éditions de l'Observatoire, qui publient énormément d'auteurs, Abel Quentin, elles sont très bien représentées dans les librairies indépendantes. Donc en fait, on parle d'un genre de livre qui est un livre idéologique, qui sont des livres programmes en fait.
Non, c'est
et je pense que les libraires indépendants, c'est pas leur
livre.
Là,
c'est pas vrai parce que mon livre n'est pas.
Mes livres ne sont pas un programme.
Il y a, par exemple, les livres de Nora Bucini, une excellente essayiste qui fait des enquêtes infiltrées au cœur de l'extrême-gauche. Elle en a fait plusieurs. Et elle documente la façon dont elle se heurte au refus de libraires indépendants d'exposer ses travaux. C'est absolument pas des livres-programmes, c'est des reportages passionnants.
Je pense que ce que veut dire Clémentine Golzal, c'est que quand il s'agit de vendre les romans de Sylvain Tesson, de Éric Nehoff...
De Michel Houellebecq
ou de Jean-Marie Rouard, qui a été une grande plume du Figaro, hein, là, il n'y a pas de problème. J'imagine que la littérature se retrouve plus... Vous pointez, Clémentine Golzal, le fait qu'on parle d'objets culturels, de livres, qui sont aussi des lieux de tracts et d'appels à l'engagement politique.
Oui, en fait, même les appeler des objets culturels, je me demande si ce n'est pas usurpé. Ou alors, on parle de la guerre culturelle, mais c'est une guerre politique. C'est-à-dire, ils ont la forme d'un livre, c'est une couverture avec des pages à l'intérieur, mais en vérité, le contenu est politique. Mais ce n'est pas grave, hein. c'est la même chose pour les livres d'hommes politiques ou de femmes politiques de gauche.
Ça s'appelle quand même un livre.
C'est une chose pour les livres d'hommes et de femmes politiques, j'entends votre argument. En revanche, beaucoup d'essayistes, plutôt marqués à droite, font des livres qui restent des objets culturels, je pense. Et d'ailleurs, en 2024, plusieurs centaines de librairies indépendantes avaient signé dans Mediapart un appel à contrecarrer les imaginaires d'extrême droite, en écrivant, je cite, « Les projets de l'extrême droite et de ses supplétifs ne relèvent pas du débat d'idées, ils menacent des vies. La présence en rayon de certains livres ne relève pas de la démocratie, elle la menace dans ses fondements. Mmh. » Donc voilà, qu'on s'en réjouisse ou non, cette façon de discriminer certains essais au nom des idées qu'ils véhiculent est...
Quand même rappeler quelque chose qui est que un libraire, en effet, quand c'est une librairie indépendante, il met ce qu'il veut en vitrine, il met ce qu'il veut autour de la caisse, il met ce qu'il veut sur sa grande table et dans ses rayons. En revanche, il doit commander, si on vient lui commander le livre de Philippe de Villiers, même s'il a en horreur Philippe de Villiers ou
ça,
pas,
c'est
d'ailleurs.
C'est une obligation légale.
Hein, et je ne pense pas que beaucoup de libraires
se soustraient à ça.
Je ne pense pas. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce qu'on appelle les relais. R-E-L-A-Y, Clémentine Golzal.
Oui, alors les relais, c'est un endroit très intéressant. Les relais, donc, c'est dans nos vies à tous et à toutes, je crois, parce que c'est dans les hôpitaux, dans les gares et dans les aéroports. Mmh. En France et partout dans le monde,
c'est
une énorme chaîne de distribution, les relais. Et fin 2023, le groupe de Vincent Bolloré, fin 2023, le groupe de Vincent Bolloré a racheté Relais et l'association qui lie la SNCF au Relais a été renouvelée en 2024. Mm-hmm. En fait, Relais, c'est pas une librairie, c'est un espace commercial. Et d'ailleurs, on y achète des câbles de téléphone, des bouteilles d'eau, des chips. Et il se trouve qu'on y trouve des livres et de la presse. Dans l'espace du Relais, la presse est soumise à un encadrement très strict d'exigences de diversité. Et en revanche, pour les livres, ça n'est pas le cas. Comme dans les librairies, on peut présenter les livres qu'on veut. En revanche, parce que les boutiques Relais ont un accord avec la SNCF, elles sont soumises à une règle de respect de la concurrence. Mmh. Donc en fait, ce qui doit être respecté par les enseignes Relais, c'est la libre concurrence des différents éditeurs et des différents groupes pour avoir le droit de mettre en avant leurs livres.
Mais au final, vous, qu'est-ce que le passager SNCF, RATP, XY, des aéroports, etc., voit dans les librairies Relais, vous le pointez
pointé, vous dites, en réalité, en grande partie, la production...
Des éditions Fayard, oui, en l'occurrence, beaucoup, et puis de beaucoup d'auteurs d'extrême droite, même beaucoup plus obscurs. Et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup eu, en fait, ce sentiment, et avec Jérôme Le Filiatre, mon collègue du Monde, on s'est dit, d'où vient ce sentiment ? Est-ce qu'il est légitime, en fait ? Il me semble qu'il y a deux choses, en fait. Il y a le fait que la société française, effectivement, lit les livres de Nicolas Sarkozy, de Jordan Bardella, qui sont des best-sellers, et relaient leur politique, c'est on ne fait que du best, donc ils prennent Pierre Lemaitre, Freda McFadden et Nicolas Sarkozy.
Freda McFadden, c'est
la femme de ménage. Ouais. Mais il y a aussi des incongruités, voilà. Et il y a énormément de la production de Fayard qui ne se vend pas nécessairement très bien. Je pense là au dernier livre de Marek Alter qui, dans les deux premières semaines, s'était vendu à moins de 1000 exemplaires. C'est tout petit. Hein, et qui est pourtant poussé. Est très, 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 très poussé par les relais.
Samuel,
je me demande pourquoi.
Oui, vous avez travaillé là-dessus. Moi, non. Je pense que vous avez sans doute raison. Pour nuancer, quand même, les relais ont très bien distribué, par exemple, le livre de Salomé Sacquet.
Tout à fait.
Qui est quand même très engagé, très à gauche. Mmh. Et il s'est extrêmement bien vendu en relais. Mmh. Après, moi,
Énorme best-seller.
Et qui est un énorme best-seller. Elle en a vendu 400 000. Après, moi, je pense qu'on est d'accord sur le constat. Et moi, je me désole de cette situation où la société s'archipélise, la pensée de droite est cantonnée à CNews et, on va dire, à certaines maisons d'édition vendues dans des relais. La pensée de gauche cantonnée à certaines élites urbaines diplômées, certaines librairies, certaines universités. Je pense que c'est dommage que j'ai l'impression qu'auparavant, le clivage droite-gauche traversait les classes sociales. Et les uns et les autres entendaient les arguments du camp adverse. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. On est bloqué dans des bulles avec des gens qui pensent comme nous, non seulement des algorithmes, mais des algorithmes sociaux, parce que c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et je pense que...
Et donc vous dites, plus ça va, plus en fait la librairie va ressembler à un algorithme,
voilà,
c'est-à-dire,
c'est
elle va choisir pour nous, et elle va nous enfermer dans une bulle, et en fait, en fonction de là où on a ses habitudes, être poussées.
Et c'est dommage, on est de quel que soit notre bord politique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins confronté à la pensée adverse, aux arguments adverses. Le refus de vendre et d'exposer certains livres relève de ça, l'idée qu'il ne faut pas examiner.
Ensuite, vous savez, quand on prend les transports en commun et quand on prend le train, on croise beaucoup de points de vente relais, et c'est une manière d'être exposé à des livres que vous pensez être, pour le coup, pas aidés, voire planqués, voire discriminés par des libraires en centre-ville.
Oui, bien sûr.
Il y a en fait le relais, le relais, c'est une librairie obligatoire, on y passe tous, on va acheter un journal, et je voudrais juste dire que ça représente à peu près 2% des ventes de livres pour les éditeurs, les librairies indépendantes c'est 22%, et donc en fait c'est des endroits symboliques très forts pour nos psychologies de ce que représente la guerre culturelle, mais en réalité les livres, ils s'achètent sur Amazon et dans les grandes surfaces culturelles, en grande majorité, les Fnac,
c'est bien,
Cultura...
C'est bien de l'avoir rappelé, vous voulez conclure
Non, c'est sur Amazon, effectivement, je pense que les librairies indépendantes ne peuvent pas d'un côté refuser de vendre certains livres, afficher un biais politique
qui aliène
certains Français, et derrière se plaindre et réclamer à ce qu'on mette en place des taxes sur les livres Amazon, parce qu'aujourd'hui il y a une taxe de 3 euros dès qu'on commande un livre Amazon, ce qui est quand même assez élevé, et ce qui, à mon sens, est assez regrettable, parce que certains livres ne se trouvent que sur Amazon,
Samuel,
donc il faut choisir.
On vous lit dans le Figaro. Clémentine Golzal, on vous lit dans le Monde. Merci à tous les deux d'avoir débattu de cette question passionnante. Les librairies sont-elles politisées ? Sont-elles des lieux de pluralisme ou pas ? Allez, on continue le choix de la grande matinale aujourd'hui. C'est un collectif londonien enthousiasmant. Salt ! Allez. Thank you. phrase qu'on devrait se répéter tous les jours. Good things will come after pressure. Ça veut dire que des choses bonnes vont nous arriver après la pression.
Alors, et c'est beaucoup, Salt.
Beaucoup de choses bonnes.
Parce que beaucoup de pression.
Beaucoup de pression. Beaucoup de choses bonnes. À commencer donc par Charline Vanhoenacker. Il est 9h46. Vous êtes toujours dans le mag de la grande matinale. Charline, les cours d'eau subissent une crue exceptionnelle dans 17 départements et les paysages sont méconnaissables.
Il pleut comme vache qui pisse. Certes, mais combien de vaches? Ça, l'expression populaire ne le dit pas. Et surtout, est-ce qu'en ce moment, les vaches n'auraient pas chopé la cystite? La moitié de la France est inondée et pour l'écologie politique, il y a donc urgence. Faut-il, oui ou non, faire alliance avec Olivier Faure? Pendant ce temps, portons notre regard vers des terres plus arides, Sonia. Celles des Émirats Arabes Unis qui viennent de connaître une année de sécheresse record. Pourquoi je vous parle des Émirats? Parce qu'eux font des efforts en développant des avions capables de déclencher la pluie. Oui, je sais, on dirait une idée à la con de Donald Trump, mais elle est déjà en application dans le ciel émirati. Courrier International nous explique que des cartouches de chlorure de sodium sont fixées sous les ailes de l'avion. Elles projettent une traînée invisible de chlorure, et des particules attirent l'eau et gonflent les gouttes jusqu'à ce qu'elles deviennent assez lourdes pour tomber. Ces avions inséminent les nuages avec des capsules de sodium pour déclencher la pluie. C'est une sorte de fécondation in nebulo, si vous voulez. Par contre, si quelqu'un peut vérifier que les pilotes émiratis ne sont pas en train de survoler la Gironde, c'est peut-être le moment de faire passer un deal, un baril de pétrole contre un baril d'eau. Tandis que dans les Alpes, Sonia, les réserves d'eau potable servent à alimenter des canons à neige pour les Jeux Olympiques d'hiver. Sur France Culture, ou dans le média en ligne Vert, l'association Résilience Montagne déclare « Ils skient sur notre eau potable ». Vous préférez skier sur de l'évian ou de la badoie, vous? Pour le slalom, je conseille la badoie fine bulle. Voilà. Mais surtout pas de Perrier, trop corrosif pour les skis. Quand je pense que tous ceux qui sont en train de boire de l'eau potable en nous écoutant, là, dans cette chronique, mais laissez-en un petit peu pour les épreuves de combiné nordique, bordel! Je comprends mieux pourquoi les pays du Sud ne sont quasiment pas représentés. Eux, dès qu'ils ont de l'eau, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils la boivent! Ils boivent l'eau au lieu de skier dessus! Milan Cortina, ce sont les premiers jeux d'hiver où la neige est à 100% artificielle. Alors, d'après les organisateurs, c'est environ 100%.
C'est drôle.
Environ 100%, c'est pas l'intégralité non plus. Voilà. C'est de la neige industrielle, mais dans le milieu du ski, on appelle ça de la neige technique. Donc pour l'instant, tout le monde s'en fout. Mais vous verrez quand on devra manger de la raclette avec du fromage artificiel et du vin chaud technique. Ah ben là, ça va gueuler. Quand je pense à tous ces ringards qui continuent à skier sur de la neige naturelle. Le clou, c'est qu'hier, des épreuves ont dû être reportées en raison d'une chute de neige naturelle. Voilà, Milan Cortina, ils doivent dégager la vraie neige fraîche pour pas la mélanger avec la neige artificielle, sinon ça fait 110% de neige, vous voyez. Faudrait voir avec les Émirats s'ils peuvent pas renvoyer la neige naturelle dans les nuages par avion. Et quand toute cette neige artificielle va fondre, eh bien le comité olympique dit que l'eau retournera dans la nature à ce moment-là. Donc tenez-vous prêts, dès que le printemps arrive, mon petit conseil, saisissez-vous d'un petit jerrycan. Conclusion, on utilise de la fausse neige, on fait tomber de la fausse pluie. Donc plutôt que de lutter contre le dérèglement climatique, on s'adapte en déréglant la météo.
La fécondation in nebulo. Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50 et nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Dans quelques jours démarre la Fashion Week Femmes de Paris. Et ce matin, je vous présente un créateur dont vous allez entendre le nom partout dès demain. Parce que fonder une maison indépendante aujourd'hui, c'est une prouesse. Parce que lui, dans un monde où tout va vite, où tout se copie, où tout s'oublie, il fait l'inverse. Il fabrique, il coupe, il construit. Il s'appelle Burcha Kiol. Bienvenue sur France Inter.
Merci Daphné de m'accueillir.
Je suis ravie de vous accueillir. Comment ça va ce matin, à quelques jours de la Fashion Week?
Le stress, mais comme d'habitude, hein, on a l'habitude, c'est notre croix à porter.
Mais c'est un stress addictif en fait.
Oui.
Parce que ça se répète quand même dans l'année.
Oui, mais on ne sait pas faire sans. C'est bien ce truc un peu qui vive, animal en cage, toujours sous tension.
C'est bien de le dire et c'est bien de l'avouer. Alors, lors de la dernière Fashion Week, votre défilé a eu lieu au ministère de la Culture. Tout se joue en 8 minutes à peu près. Il faut présenter toute sa collection, 8 minutes où se joue une année entière pour vous, pour votre atelier. La première silhouette, le premier vêtement, il arrive comme une évidence. Un tailleur noir, ultra sharp, des épaules architecturales. Et puis le twist qu'on n'attend pas. La veste est nouée à la taille. Vous savez, comme un pull ou une chemise qu'on a enfilée en vitesse. Sauf que là, pas du tout. C'est une sorte d'origami couture, une silhouette de la nuit taillée au millimètre qui n'a absolument pas besoin de parler ni de se présenter. Cette veste dit tout simplement « bonsoir ». C'était à peu près ça.
C'est exactement le mot, bonsoir.
Comment va s'ouvrir le prochain défilé, Burç Akyol?
Bon, je n'invente rien, il suffit d'aller voir les autres, ça sera un tailleur. C'est la signature maison, on commence comme ça. C'est le truc le plus exigeant qu'il y a à dire et après on peut se dévêtir un peu.
Pourquoi c'est le tailleur, la signature de votre maison?
Ça vient de mon père, il était tailleur, ça vient de... C'est pas indulgent, il faut être un peu plus sérieux pour faire le tailleur, donc c'est les premières étapes, c'est ce qui structure, c'est l'épaule, c'est la force.
Alors c'est toujours émouvant de rencontrer un créateur qui installe sa maison après des années de travail. Vous étiez finaliste du prix LVMH, mais vous avez surtout gagné le prix Pierre Berger de l'Andam. Alors l'Andam, c'est l'un des grands prix français pour soutenir les jeunes créateurs. C'est une dotation de 100 000 euros et un accompagnement pour faire justement grandir la maison. Est-ce que ça aide à tenir la reconnaissance ou est-ce que ça met finalement encore plus de pression ?
Non, ça aide, c'est un encouragement, c'est des gens qui vous serrent la main en vous disant « Attends, on va t'aider encore un petit peu. » Parce que c'est le mentoring, par exemple, avec Alexandre Mathiussi, c'est de
Alors, le créateur Alexandre Mathiussi de Annie.
C'est quand même de la lumière au bout du tunnel. On passe nos journées à se poser des questions, c'est un ascenseur émotionnel moins 100, plus 90 tous les jours. Donc, d'avoir des gens avec plus d'expérience qui vous disent « Chaque jour sa peine, c'est moteur. »
Alors aujourd'hui, vous êtes porté par exemple par l'actrice britannique Emma Corrin, qui est Lady Di hein, dans The Crown, la rappeuse Cardi B, la mannequin Kendall Jenner, ou encore notre chérie Philippine Leroy-Beaulieu. À l'ère des réseaux sociaux et de la viralité d'une image, qu'est-ce que ça change en vrai pour vous ?
C'est un spot lumière, on l'adore ce spot lumière. Puis surtout, c'est une incarnation, hein. ces femmes-là, ces hommes, ces they. Ce qui est génial, c'est que notre langage trouve un corps, une gestuelle qu'on ne pourrait pas dire seulement avec le tissu. Ils prennent vie, c'est vraiment pour eux qu'on le fait à la base. Pour eux, et d'ailleurs les clients, hein, c'est la
même
chose.
Oui, parce que le lendemain, j'imagine qu'il y a un petit peu plus de commandes.
Il y a un peu plus de commandes, on est bien content, on peut faire une saison un peu plus tranquillement.
Ah, et surtout, c'est toujours aussi puissant.
Moi, j'ai une robe qui nous a sauvé une collection.
Elle s'appelait comment
cette robe ? Elle s'appelait la cariatide, mais c'est comme à chaque fois, c'est cariatide 2.0.
C'est vos inspirations premières, les cariatides.
Les cariatides.
Et donc cette robe, la cariatide, elle a été portée par...
Par tout le monde, parce que c'est toujours une itération de cette robe qui finit sur un red carpet. Ce que je suis très content, parce que cette idée très Agnès Varda, silencieuse de la femme la plus forte du monde, c'est un peu Isabelle Huppert aussi qui rentre dans une pièce, tout le monde s'éteint d'un coup pour... sa lumière à elle, il y a c'est toute la force qu'on demande à une robe, non ?
Je suis bien d'accord. J'ai pas encore vu Fanny Ardant d'ailleurs dans un de vos looks, et pourtant j'ai l'impression qu'elle est un peu dans votre peau. Qu'est-ce qu'elle dirait Fanny Ardant ?
Que c'est l'amour, que c'est Rome, que c'est les coups de couteau. Je l'adore. S'il n'y a pas de phrasé autre que Fanny.
Ah ben non. Alors vous êtes passé, on va le raconter, par la chambre syndicale, aujourd'hui on peut dire l'IFM. Vous avez travaillé chez Balenciaga, chez Ungaro, chez Dior. Mais le moment où vous comprenez que vous voulez faire ce métier, et j'aime bien cette image, c'est en regardant finalement la télévision. Vous êtes tombé sur un défilé.
Oui, parce que papa était tailleur, mais enfin, je ne comprenais pas trop le lien avec la mode, parce que c'est très différent. Et c'est l'époque John Galliano, c'est l'époque Alexander McQueen, et Eddie Slimane aussi. Je pense que la rigueur du noir, du vrai tailleur, elle vient de là. Donc, qu'est-ce que
c'est
que ce
monde ? Vous vous souvenez de ce moment-là ?
Oui, j'étais plus fin que fin et ado, et je découvre un jean skinny pour la première fois sur un mec qui me ressemble à la télé. Ça me parle. Je veux dire, c'était pas un jogging, j'étais content. Du coup, j'ai passé 3 mois à essayer de trouver quelque chose qui ressemblait à ça. Le désir du vêtement est né là, je crois.
Ouais. Ah ouais. Alors, vous avez grandi à Dreux, et ce son de votre enfance, c'est celui du film Un Saint-Jean d'hiver.
Ouais.
Belmondo qui danse le flamenco sur une table dans un bar et qui vous fait penser à l'insouciance et aux élans de votre père, qui était donc très bon danseur. Vos parents sont turcs, votre mère était femme de ménage, votre père, vous l'avez dit, était tailleur, et la chambre familiale devenait son atelier. Qu'est-ce qu'il vous a transmis ?
La fierté de son ouvrage, le plaisir de faire un manteau soi-même et de l'enfiler, de se dire « Ah, on est beau dedans ».
Mais il vous l'a appris très jeune?
C'est
ou vous regardiez ça de loin?
Non, on participait, on avait cette même activité familiale où on se retrouvait avec les grands-parents à coudre et rapiécer les vêtements, parce qu'on ne pouvait pas en acheter beaucoup. Donc le samedi soir, c'était devant la télé ou à parler, boire le thé et rapiécer les vêtements. Quoi. On faisait de la couture. C'était...
Vous aviez une spécialité à cet âge-là, vous?
Oh là là, quelle horreur! Les tenues des L5 pour mes sœurs, les pauvres, elles sont passées par des états.
Vous avez copié toutes les tenues des L5 toutes les femmes de ta vie, évidemment.
Oui, bah oui, complètement. Oh, je les ai obligées à filmer aussi.
Oh, c'est génial comme première pièce. En tout cas, il paraît, la légende dit sur vous, Bourtchakiol, que vous dessinez des silhouettes depuis la maternelle, finalement, que personne n'aurait pu vous dissuader de travailler dans la mode. En plus, vous êtes bélier. À l'adolescence, vous écoutiez en boucle une cassette piquée à votre tante, une compile donc de ballades pop. Il y avait les Fugees, il y avait Mariah Carey, mais il y avait aussi les Guns.
Ouais. Cool.
Et comme vous êtes persévérant, vous apprenez l'anglais en écrivant les paroles en phonétique, exceptionnel, et vous demandez la nationalité française à l'âge de 13 ans. Mmh. L'administration française a voulu corriger votre identité. Que s'est-il passé ?
Alors, c'est pas aussi spécifique à moi, c'est une règle commune. On enlève tout ce qui est signe distinctif, les trémas, les cédilles, etc. Donc j'ai perdu la cédille de mon Burç. Mon prénom se dit Burç, on enlève cette cédille, en turc le C devient J, donc c'est autre chose complètement. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais plus tard, en décidant de prendre une plateforme mode, avec son propre nom, on se dit qu'il y a une partie de nous qui a été coupée avec ce CCD.
Parce qu'il est revenu, voilà.
Ouais, il revient maintenant. Je le signe à nouveau avec tous mes mails, tout. La marque n'est pas encore son CCD, mais c'est parce que c'est une question de DA et ça doit arriver. Je veux rencontrer les bonnes personnes qui vont m'aider à le réintégrer à ce logo, parce que c'est de l'image aussi. Mais moi, en tant que designer, ouais, je suis Burç.
Alors Burç, vous dites que le vêtement, il sert à serrer la main des autres. Ça veut dire quoi exactement ?
Serrer leurs mains, les accompagner, être un soutien, les embellir aussi. Parce qu'il y a cette notion du beau qui est en train de disparaître dans le vêtement. J'ai l'impression qu'il est tellement singulier, tellement chacun, qu'on a un peu oublié ce qu'il voulait dire. Mais je crois que beau, c'est... Est-ce qu'on se sent, quoi ? Est-ce qu'on arrive à se sentir maintenu, tenu et épaulé ? Prêt à affronter un peu.
C'est ce que vous voulez dire avec votre mode ?
Ouais, séduire aussi. Je suis un éternel séducteur, c'est maladif, je pense, mais... Faut pas le cacher, hein. Mais ouais, c'est ce qu'il... La première chose qu'on a envie de faire en ayant un beau... Enfin, le vêtement que je fais, en plus, il est tellement particulier à des moments de vie, il vous accompagne sur des petites... des accents, en fait. Et là, j'aime bien qu'il permette la séduction. Un verre sur le côté en soirée.
Ça va être un grand jour, hein, ce défilé. À chaque fois, de toute façon, on rejoue tout. Mm. Je vais mettre un petit peu de ce son qui vous aide à vivre. Et je vous propose, ce matin, avant ce grand jour, une dédicace au micro de France Inter. À qui vous feriez une dédicace ?
Les deux personnes les plus importantes aujourd'hui, mon mari, Hugo et Jonathan, sans eux, les Nuits Blanches, elles n'ont vraiment pas le même goût. Il faut qu'ils soient là.
On les embrasse très fort. Bourtchakiol est à suivre, évidemment, sur tous ses réseaux sociaux. Et puis, vous allez voir des images magnifiques défiler dans quelques jours. Merci beaucoup.
Merci, Daphné.